On va avancer parce qu'on va tenter par nos interventions d'essayer d'apporter des réponses à ces interrogations, à cette prise en compte des troubles et les éléments de réponse qu'on pourrait avoir au quotidien dans la vie de l'enfant. Et donc, on va avoir une intervention de Madame Legendre, qui est directrice du réseau Normandis et qui va nous parler de cette coordination qui doit être faite, d'une part avec la fluidité des adressages, l'évaluation qui doit être faite à un juste niveau, et puis aussi toutes les élaborations de réponses appropriées qui vont pouvoir être mises en place progressivement dans les différents lieux de vie de l'enfant pour arriver à essayer de le guider au mieux. Et ça, c'est toute l'importance du réseau Normandis.
Merci. Voilà. Alors, je veux bien récupérer un tout petit bout de fil, monsieur Baudin. Hop. Merci. Alors, donc le réseau Normandis, donc un réseau de santé, réseau de professionnels de santé, donc autour de la prise en charge des troubles du langage et des apprentissages. Ce réseau est issu de la réflexion commune entre le CRTLA et l'AMPO, dont vous avez eu deux représentants ce soir déjà, qui visait à améliorer et à coordonner les prises en charge, à décloisonner les pratiques entre les différents intervenants, et on l'a déjà entendu, à la fois du secteur de la santé, du médico-social et de l'éducation nationale autour de ces enfants, et à adapter le système de soins aux besoins du patient et à accroître les compétences collectives, et ce, dans la proximité de l'enfant. Alors, à ce jour, on a 320 professionnels de santé qui sont membres de ce réseau. Bien évidemment, ce travail va se faire en lien avec les acteurs institutionnels qui interviennent autour de l'enfant, donc avec le centre, les centres hospitaliers, donc le CRTLA notamment, l'AMPO, l'Association normande de prévention en orthophonie, les professionnels de l'éducation nationale, les professionnels des établissements médico-sociaux qui peuvent prendre en charge l'enfant au cours de sa scolarité, les associations de parents d'élèves, de parents d'enfants présentant ces troubles, donc APDIS et Dyspraxique mais Fantastique notamment, qui sont présents au niveau de la région, les MDPH des trois départements, et bien évidemment aussi au niveau national, l'Union nationale des réseaux de santé et la Fédération nationale des réseaux de santé s'occupant particulièrement des troubles du langage et des apprentissages, dont bien évidemment le réseau Normandie est membre. Alors, on a essayé de vous représenter le parcours de soins d'un enfant présentant des troubles du langage et des apprentissages. Donc on a représenté le patient, sa famille, qui donc est préoccupée par le trouble de son enfant, qui va bien évidemment aller vers le médecin généraliste ou le pédiatre par rapport à ces informations qui ont pu être relevées, après avoir été dépisté, repéré par le biais de l'école, par le biais d'un dépistage qui a pu se faire. Alors on voit pas très bien, mais vous aurez les supports, mais c'est le niveau, c'est tout ce qui va intervenir dans le repérage de ces enfants. Va ensuite être mise en place la prise en charge du niveau 2, donc avec l'intervention de l'orthophoniste, l'intervention de la psychomotricienne, de l'ergothérapeute, l'ensemble des services de pédiatrie ou autres structures qui va pouvoir prendre en charge les CAMS, les CMP, les CMPP. Et puis, quand cela va s'avérer nécessaire, le centre expert, donc avec le CRTLA, le CHU. Bien évidemment, tous ces niveaux vont se parler, se coordonner. Il va y avoir des interactions entre eux. Et vous avez bien vu que le patient, il est un peu noyé dans tout ça. Quelle orientation? Comment il s'organise? Les prises en charge, elles sont multiples. Avant de poser le diagnostic, c'est long. L'attente va être importante. Et comment on va pouvoir orienter les patients dans tout ça? Ça va être le rôle du réseau Normandis que d'appuyer à la coordination du diagnostic et à sa prise en charge. Avec différentes missions, notamment une mission de prévention, en apportant auprès des personnes qui vont être au plus près de l'enfant l'ensemble des informations qui vont être nécessaires au repérage de ces enfants présentant ces troubles, en lien bien évidemment avec les associations de patients et surtout de parents de patients. La coordination, mais je vais y revenir, qui va intervenir pour justement rendre efficace la prise en charge, et l'orientation quand cela va s'avérer nécessaire pour une expertise plus particulière. L'idée, c'est d'apporter voilà, la fluidité dans le parcours, la raison d'être de ce réseau. Alors, l'éducation thérapeutique du patient, c'est pour citer une des expérimentations aussi du réseau, c'est de réfléchir à des nouvelles prises en charge et dans l'innovation de ces prises en charge pour ces enfants. Donc, des actions opérationnelles qui ont été menées depuis 2006, maintenant autour des principaux axes d'action du réseau. Donc, la coordination de soins de ville et hospitaliers, des informations, comme ce soir, mais on en organise aussi régulièrement, des formations pour les professionnels de santé spécialisés qui peuvent avoir besoin d'une approche particulière et on essaye de l'amener en région pour vraiment faire en sorte que ces informations circulent. Une recherche clinique, avec notamment l'encadrement de documents de mémoire, notamment en orthophonie. Un fonds documentaire qui est mobilisable au réseau. Une veille épidémiologique, on essaye de faire remonter aussi les informations auprès des instances, l'organisation de la filière soins en réseau et l'éducation thérapeutique. Alors, plus particulièrement la coordination, et c'est dans ce cadre que souvent vous allez pouvoir rencontrer le réseau Normandis, la coordination, elle a pour but de replacer l'enfant au cœur du dispositif, de garantir une prise en charge globale et d'apporter une aide et un soutien aux parents dans leur démarche. Bien évidemment, elle se fait en lien avec les différents professionnels de santé, et c'est tout son intérêt, avec la famille, l'éducation nationale et les MDPH. Parfois, on peut aussi apporter un soutien financier, puisqu'un certain nombre de prises en charge ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale, ce qui pose un certain nombre de difficultés pour certaines familles, notamment quand elles n'ont pas la possibilité d'accéder à un CMPP ou autre structure qui pourrait proposer ce type de prise en charge globalement. Et donc le réseau peut apporter un soutien financier selon bien évidemment les conditions financières de la famille. Alors à ce jour, c'est 2350 professionnels de santé qui ont participé à un projet de coordination, à un parcours de coordination pour un enfant au sein du réseau depuis sa création. Alors, les motifs d'inclusion au sein du réseau, ça va être évidemment de coordonner les prises en charge. Quand plusieurs professionnels vont intervenir, il ne s'agit pas que chacun se marche dessus, entre guillemets, et puis aussi de le faire, comme le disait le docteur Pagnilo-Valette, dans une logique qui permette à l'enfant d'évoluer positivement au fur et à mesure et de voir les urgences et ensuite mettre en place les différentes choses. Et faire en sorte aussi de faire le point avec les différents professionnels sur les évolutions de l'enfant dans la prise en charge qui le concerne, pour que les autres soient informés aussi que, pas tout de suite, en effet, peut-être que dans telle prise en charge, ça avance pas vite, mais que dans d'autres, les évolutions sont importantes. Le besoin de lien avec l'école, on l'a entendu, le besoin de pouvoir avoir des informations, échanger sur les préconisations d'aménagement, mais on en reparlera. Le besoin d'accompagner la famille dans les démarches. Les familles sont parfois en grande difficulté pour mettre en place les demandes d'aménagement. Et il faut avoir en tête que souvent, ce sont des familles pour lesquelles les difficultés ont elles aussi été présentes dans leur scolarité. Ce sont souvent des enfants. L'un des deux parents a parfois présente ce type de trouble et est en grande difficulté par rapport à ces troubles. Et à un passif scolaire qui peut être très difficile, et on lui demande d'être en lien très étroit avec l'école. Donc ça peut quand même générer un certain nombre de difficultés, et parfois la médiation avec l'école est nécessaire. Et donc le réseau peut intervenir de ce point de vue. Et puis il s'agit aussi de faciliter les transferts d'informations. On sait que l'entrée au collège est difficile pour ces enfants, parce que là où le lien individuel, interindividuel est possible en primaire avec l'enseignant, là, l'enfant va se retrouver avec une multiplicité d'intervenants, de professeurs, arrivés au collège. Et là, l'échange va être plus difficile aussi parce que le professeur, il a plusieurs classes, parfois plusieurs établissements, et que se souvenir que le petit Durand, qui est dans le fond de la classe, il est 10, ah mince, je l'avais ce matin, bah, j'ai pas pensé, c'est plus difficile aussi pour lui de l'accompagner. Et ce besoin d'information, il est nécessaire. Là aussi, lorsqu'il y a un changement d'établissement scolaire, il faut réaccompagner l'ensemble de l'échange qui va se mettre en place. Alors, c'est un réseau régional. J'ai mis les chiffres. Alors, ce n'est pas 2014, parce que j'ai voulu remettre au 31, mais après, ça compliquait un peu la chose. Donc, c'est au 31 décembre 2013, pas 2014. Donc une répartition qui suit globalement la répartition démographique à quelque chose près des enfants des classes, des tranches d'âge qui sont suivis, enfin qui sont scolarisés actuellement avec une légère surreprésentation de l'ordre, mais c'est vraiment peanuts. Alors les motifs d'inclusion, non, là il y a un problème. Donc parmi les enfants inclus, en 2013, 42% avaient une reconnaissance de handicap. Alors je mets, c'est pas le bon terme, mais l'idée c'est ça, c'est qu'il y avait un besoin de compensation d'un handicap avéré. 40% évoluaient dans des familles dites vulnérables, et on se rend compte que c'est quelque chose qui augmente beaucoup parmi la population suivie au sein du réseau, puisqu'on a une augmentation de 30% de ce type de situation. Et 60% évoluent donc dans une famille avec comorbidité, c'est-à-dire que l'un des parents ou un frère et sœur a ce type de problématique, lui aussi. Alors j'ai précisé, donc voilà, les financements dérogatoires. Alors c'est bizarre, parce que pour le coup, je vais vous rappeler les motifs d'inclusion, mais ils n'apparaissent pas, donc je vais vous les donner comme ça. Ben, je vous les donne ou pas ? Oui ? Bon, alors je ne sais pas pourquoi, pardon. Donc les moyens, je vais vous parler des moyens, vous avez l'équipe au complet du réseau ce soir. 4 salariés, 2 infirmières coordinatrices qui se répartissent donc sur le territoire bas-normand, une assistante de coordination et de direction, et une directrice administrative. Auxquels vous ajoutez des contributions de temps qui ne sont pas intégrées dans les moyens véritablement, mais qu'on aime à valoriser. Alors, il y a un petit hiatus, c'est 1219 heures de professionnels de santé, c'est-à-dire que les professionnels de santé participent à un certain nombre d'informations, de relations, de réunions et autres qui sont valorisées. Et pareil pour les partenaires, c'est-à-dire que c'est vraiment dans une logique de collaboration au quotidien que le réseau intervient, et il nous semble important de le valoriser. L'ensemble des coûts du réseau est pris en charge par l'Agence régionale de santé par le biais d'une dotation. Ce qui veut bien dire que pour les familles, c'est gratuit. Alors, ce que le réseau ne pourra pas faire, réduire les délais de rendez-vous auprès des professionnels de santé. Je n'ai pas de baguette magique, je n'ai pas mes listes d'entrée, je ne sais pas passer devant tout le monde. Apporter de solutions miracles aux difficultés d'un enfant, imposer des préconisations aux acteurs impliqués, et surtout se substituer à la famille ou aux professionnels de santé dans son rôle d'acteur de la prise en charge. Le réseau, par contre, tâchera de développer les partenariats avec les différents acteurs du parcours de soins, de fixer des objectifs réalisables et motivants pour l'enfant, qu'il puisse aussi évoluer régulièrement, sensibiliser les professionnels à la mise en place d'actions, aider la famille à prendre pleinement sa place d'aidant dans la prise en charge, et on sait que c'est important aussi de pouvoir les réassurer parce que c'est un parcours difficile, et élargir la coordination proposée à d'autres pathologies pédiatriques, mais ça c'est aussi une ouverture pour le réseau, c'est-à-dire que on est aussi dans l'accompagnement des troubles 10, mais aussi des autres problématiques d'apprentissage qui peuvent être secondaires à des pathologies pédiatriques, dans un milieu ordinaire, toujours, de scolarisation. Alors, si vous voulez en savoir plus, vous trouverez l'ensemble des informations, vous trouverez aussi des plaquettes, alors, je sais pas, elles ont dû être... Enfin, on les a mises sur la table, hein, donc n'hésitez pas. La seule chose qui n'est plus bon dans la plaquette, c'est l'adresse, puisque nous venons de déménager. Et donc maintenant, nous nous situons dans les locaux du CHR Clémenceau à Caen, et non plus à Bretteville-sur-Redon. Et donc vous pouvez aussi retrouver l'ensemble des informations sur le site internet du réseau Normandis, avec notamment une présentation de l'ensemble des troubles. Donc vous pouvez retrouver voilà, la définition de l'ensemble des troubles, et des brochures de présentation des troubles spécifiques et des aménagements qui peuvent être proposés, notamment pour ce qui concerne le langage oral et le langage écrit. Et la particularité de la brochure qui concerne le langage écrit, donc la dyslexie, notamment dysorthographie, c'est qu'elle va être présentée à la fois par trouble, mais aussi par matière enseignée. Donc vous avez tout à fait la possibilité de vous y référer pour voir des propositions d'aménagement qui peuvent être faites. Voilà.
Un grand merci.